VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 GMT, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 mars 2017. John Lydon en direct de Washington. Au sommaire ce soir, Jean-Pierre Bemba à nouveau frappé par la CPI. L'ancien vice-président congolais est condamné à un an de prison pour subordination de témoins. À Londres, une attaque devant le Parlement britannique est qualifiée de terroriste par la police. C'est la journée mondiale de l'eau. Selon l'UNICEF, un enfant sur quatre aura un accès limité à l'eau potable en 2040. Les 68 pays membres de la coalition contre le groupe État islamique sont réunis au grand complet à Washington. Rex Tillerson promet une cuisante défaite de Daesh. Et puis, retrouvez Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à un an de prison et 300 000 euros d'amende pour subornation de témoins. Le point avec Dili Dico.
La Chambre vous inflige, Monsieur Bemba, une peine supplémentaire d'un an d'emprisonnement suite à votre peine actuelle, a déclaré le juge Bertram Schmitt dans le cadre du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de Jean-Pierre Bemba. Bemba a été reconnu coupable en octobre d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité de faux témoignages devant la CPI en échange d'argent, de cadeaux et de promesses d'installation en Europe. Jean-Pierre Bemba a aussi été condamné à verser une amende de 300 000 euros, une somme qui sera transférée au fonds pour les victimes. L'ancien homme d'affaires de 54 ans a déjà été condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour des meurtres et des viols commis en Centrafrique par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003.
Les juges de la Cour pénale internationale pourraient attribuer vendredi les premières sommes pour le dédommagement. Plus de 16,4 millions de dollars avaient estimé les avocats des victimes d'une attaque sur un village congolais en 2003. La décision des juges concernant des réparations pour 304 victimes de l'ancien chef de milice congolais, Germain Katanga, serait une étape importante pour la CPI. Le parquet de Paris a requis un non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol portées par des enfants contre des soldats français de l'opération Sangaris en Centrafrique en 2013 et 2014. A-t-on appris hier de sources judiciaires et proches du dossier. Le parquet n'exclut pas que des abus sexuels aient pu être commis sur des mineurs en Centrafrique, mais les témoignages recueillis n'ont pas permis de confirmer suffisamment des faits imputés aux militaires français. La France a mis en garde mardi contre des réductions drastiques de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Ceci reviendrait à jouer avec le feu dans un pays confronté à des turbulences électorales. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO, soutenu par la France, doit passer par un examen de la nouvelle administration américaine qui veut réduire ses contributions aux opérations de paix de l'ONU. Quatre explosions provoquées par des attaques suicides ont frappé mercredi un camp de déplacés du nord-est du Nigeria. Tijani Loumani, coordinateur de ce camp près de Maïdougouri, a par ailleurs souligné que le bilan humain était inconnu. La Côte d'Ivoire a évacué mardi plus de 150 de ses ressortissants bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe, ont déclaré les autorités. Un responsable de l'hebdomadaire privé malien, Le Figaro du Mali, a comparu mercredi devant un tribunal qui a renvoyé son procès au 29 mars. Outre la diffamation, le directeur de publication du Figaro du Mali, Ami Baba Cissé, est accusé d'atteinte à l'honneur et à la dignité du président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, en lien avec un article évoquant un scandale sexuel au Parlement. Environ 200 militants de l'opposition zimbabwéenne ont manifesté mercredi à Harare sous étroite surveillance policière pour exiger une réforme électorale en vue d'un scrutin libre et transparent en 2018. Le président Robert Mugabe, 93 ans et au pouvoir depuis 36 ans, a été désigné candidat par son parti. Les Nations Unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions de dollars en vue d'éviter une nouvelle famine en Somalie, un pays frappé par une grave sécheresse, a annoncé mardi la FAO. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, l'UNICEF a publié un rapport alarmant. D'ici 2040, un enfant sur quatre dans le monde aura un accès insuffisant à l'eau potable. Claire Morin-Gibourg.
Le rapport de l'UNICEF est très inquiétant. D'ici 20 ans, près de 600 millions d'enfants vivront dans des zones avec des ressources en eau potable très limitées. L'accroissement de la population et les effets du réchauffement climatique sont mis en cause. Aujourd'hui, plus de 36 pays ont des difficultés d'approvisionnement en eau, selon ce rapport, notamment des régions du Nigeria, de Somalie, du Soudan du Sud ou du Yémen. 1,4 million d'enfants risquent de mourir de famine dans les prochains mois. Plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhée en raison d'un mauvais environnement sanitaire et d'un accès insuffisant à l'eau potable. L'eau insalubre provoque également des retards de croissance. Parmi les recommandations, l'UNICEF appelle les gouvernements à se pencher en priorité sur les problèmes d'approvisionnement en eau potable. Également, le recyclage des eaux usées aiderait, selon l'ONU, à résorber les problèmes de manque d'eau et à protéger l'environnement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Londres, une attaque devant le Parlement britannique qualifiée de terroriste par la police a causé la mort d'une femme et plusieurs blessés graves, selon une source médicale citée par l'agence britannique Press Association. La séance sur un référendum d'indépendance au Parlement écossais a été suspendue. Les 68 pays de la coalition qui se bat en Irak et en Syrie contre le groupe État islamique sont réunis au grand complet à Washington. Le point avec Tatiana Mosso.
C'est la 10e réunion des 68 pays membres de la coalition pour combattre le groupe État islamique. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a promis lors de cette rencontre la mort prochaine du chef du groupe djihadiste Abu Bakr el-Baghdadi. Presque tous les adjoints de Baghdadi sont morts, y compris le cerveau des attentats de Bruxelles, Paris et d'ailleurs. Ce n'est qu'une question de temps avant que Baghdadi lui-même rencontre le même destin, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Le Pentagone a annoncé que l'artillerie américaine soutenait une offensive contre un barrage stratégique près de Raqqa, mais les États-Unis et la Turquie s'opposent sur la force qui doit conduire l'assaut final. Entre 3000 et 4000 djihadistes sont retranchés dans cette ville de 300 000 habitants et les combats s'annoncent difficiles. D'ailleurs, le Pentagone va doubler ses effectifs en Syrie avec l'envoi d'un millier de soldats supplémentaires.
En Syrie, 33 civils ont trouvé la mort dans un raid de la coalition dirigée par les États-Unis. Le bombardement visait une école qui abrite des déplacés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le point avec Morgan Guiriec.
Le commandement de la coalition contre le groupe État islamique a indiqué qu'il allait mener une enquête après un bombardement qui aurait fait plusieurs dizaines de victimes civiles au sud d'Al-Mansoura, près de Raqqa. Ce dernier carnage intervient alors que Washington et ses alliés ont déjà été montrés du doigt la semaine dernière pour un autre raid qui a fait des dizaines de victimes civiles dans une mosquée. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 49 civils ont été tués. Les États-Unis ont nié avoir bombardé ce lieu de culte et ont publié très rapidement une photo du site touché. D'après Washington, le bâtiment frappé accueillait une réunion de chefs d'Al-Qaïda dans le village d'Al-Jineh, dans l'ouest de la province septentrionale d'Alep. La réunion se tenait à proximité de la mosquée. Le Pentagone a dit lundi être en train de vérifier si ce bombardement a fait des victimes civiles.
À la veille d'un vote crucial et emblématique au Congrès pour abroger la loi sur la santé signée par son prédécesseur, Donald Trump n'était toujours pas certain de l'emporter en raison de la rébellion d'une partie de la majorité républicaine. La Chambre des représentants, chambre basse du Congrès, votera demain jeudi sur un texte abrogeant et remplaçant Obamacare, promesse de campagne et première grande réforme du mandat du 45e président des États-Unis. L'interdiction pour raison de sécurité d'ordinateurs portables ou de tablettes en cabine sur les vols en provenance de 6 pays à destination du Royaume-Uni sera effective dans les prochains jours. C'est ce qu'indique l'agence de presse britannique PA, citant un porte-parole de Downing Street. Cette décision est intervenue quelques heures après celle de Washington de les interdire sur les vols en provenance de 8 pays, invoquant un risque d'attentat terroriste. La Belgique rendait en hommage empreint d'émotion ce mercredi, un an après, aux victimes des pires attentats de son histoire, au cours de certaines de cérémonies où moments de recueillement et prise de parole se sont succédés. Les hommages aux 32 morts et plus de 320 blessés du 22 mars 2016, qui devaient s'échelonner jusqu'à ce soir, ont débuté à l'aéroport de Bruxelles, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde et de plusieurs centaines de personnes. La police de Chicago recherchait mercredi jusqu'à 6 suspects pour le viol collectif d'une adolescente diffusée en direct sur l'application Facebook Live. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et sur voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Après le divorce annoncé avec sa filiale camerounaise Messa Press, le groupe français Prestalis, qui est engagé dans la distribution de journaux et de livres en Afrique, ne parvient toujours pas à trouver un repreneur à l'approche de la date butoir du 31 mars. À partir de cette date, Messa Press, principal distributeur de journaux au Cameroun, devrait cesser ses activités en raison de pertes cumulées. Prestalis a mis l'entreprise en vente pour 1,3 milliard de francs CFA, mais interrogé par Jeune Afrique, une source proche de Sopecam, la société de presse et d'édition du Cameroun, a jugé cette offre surévaluée. Accord de partenariat entre la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud dans le domaine des hydrocarbures, Malabo et Juba entendent collaborer sur des projets dans le secteur gazier et pétrolier et promouvoir surtout la collaboration entre leurs compagnies pétrolières nationales. C'est Vital, le groupe algérien présent dans l'agroalimentaire, compte s'implanter en Éthiopie. Son patron Issad Rebrab a annoncé hier, lors de l'Africa CEO Forum à Genève, la création d'une unité de transformation d'oléagineux en Éthiopie. Le projet, facilité notamment par la nouvelle ligne de train rapide entre Addis Abeba et Djibouti, nécessitera un investissement de 360 millions de dollars environ.
Musique qui ne trompe pas et nous accueillons Nicolas Pineau pour le sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur depuis hier.
L'ancien international belge Marc Wilmots a donné sa première conférence de presse ce mercredi depuis Abidjan. On rappelle que Wilmots, dont c'est la première aventure africaine, aura pour mission de qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018 et la CAN 2019. On écoute le nouveau sélectionneur des éléphants.
Je voulais étudier votre pays, votre culture et le football. Je pense que c'est le petit Brésil d'Afrique, que vous avez une génération exceptionnelle et que maintenant on est un peu dans un trou, comme on était avec l'équipe belge, qui pendant 12 ans on n'avait pas eu de tournoi et il fallait remettre des choses en place. Donc je peux m'appuyer sur une certaine expérience et aussi avec quelques personnes qui viendront m'accompagner pour faire de cette équipe de nouveau une équipe qui a envie de gagner. Et je suis entièrement d'accord avec le président, détruire c'est facile, construire c'est plus dur. Alors, si vous me demandez pourquoi je suis venu ici, je suis venu pour construire quelque chose, un projet. Et je suis certain d'une chose, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes et j'aime lancer les jeunes.
Marc Wilmots, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Retrouvailles attendues entre Neymar et Cavani en Amérique latine.
Deux semaines après la spectaculaire remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain, deux des meilleurs attaquants du monde, Edinson Cavani et Neymar, se retrouvent à nouveau face à face demain pour un duel entre l'Uruguay et le Brésil dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. L'Uruguay jouera sans son autre attaquant vedette, Luis Suarez, ni son gardien titulaire, Fernando Muslera, tous deux suspendus pour avoir accumulé trop de cartons jaunes.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State, leader de la conférence Ouest, a remporté sa 5e victoire d'affilée à Dallas face aux Mavericks, 112-87, tandis que San Antonio, numéro 2 de la conférence Ouest, a battu les Timberwolves de Minnesota sur leur parquet, 100-93. Dans la conférence Est, DeMar DeRozan a fait le show avec ses 42 points qui ont permis à Toronto de prendre le meilleur en prolongation sur Chicago, 122-120.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Tchad, où Marine Le Pen est en visite, candidate de l'extrême droite à l'élection présidentielle en France, sous la bannière du Front National. Son programme de visite est tenu dans la discrétion totale. Une visite non officielle, décriée par l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'opposition démocratique tchadienne André Kodmadjinga.
Elle défend une politique basée sur la discrimination. C'est une politique moyenâgeuse qui n'a même pas de sens. Et ce n'est pas une politique humaine même.
Voilà la raison principale pour laquelle l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau du chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo, s'oppose à la visite de Marine Le Pen au Tchad. Pour l'UNDR, le Tchad est un carrefour de culture et de tolérance et ne doit pas montrer une quelconque sympathie avec une candidature basée sur le racisme et la xénophobie. Larry Baou est le secrétaire national à la communauté et aux nouvelles technologies de l'UNDR.
Quand elle suppose toujours que chacun doit rester chez lui, il vaut mieux qu'elle-même reste chez elle. Pourquoi les autres candidats ne viennent pas? L'autre raison aussi, c'est que quand le président a été élu avec beaucoup de problèmes, elle est la seule personnalité à féliciter. Donc, on sait déjà de quoi il s'agit. Les Français sont partout. Est-ce qu'elle va faire le tour du monde pour visiter tous les Français?
Réaction du ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué.
Nous sommes dans un pays démocratique. Il est très important de le dire. Chaque parti politique peut se positionner sur ce processus de voyage, mais je crois que c'est une visite de campagne politique. Nous avons sur le territoire une communauté française et Marine Le Pen arrive dans une perspective de parler aux concitoyens français. Et en ce sens-là, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire.
Arrivée ce mardi, elle a été reçue par le chef de l'État Idriss Déby Itno dans sa villa privée à Amdjaras, à l'est du Tchad. Marine Le Pen parle de l'entretien qu'elle a eu avec le chef de l'État tchadien.
Nous avons discuté de la situation du terrorisme qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France. Nous avons discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir avec le G5 Sahel, et nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse. Au moment de l'intervention française, nous pensions qu'il s'agissait c'est là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons envisagé de nous revoir. Je souhaite que ce soit dans le cadre d'une visite officielle où peut-être j'inviterai le président Déby à l'Élysée.
À N'Djamena, Marine Le Pen a rencontré successivement ce mercredi les éléments de la force Barkhane, la première dame Hilda Déby Itno et le président de l'Assemblée nationale. Elle a fini sa visite à l'hôpital mère et enfant de N'Djamena. André Kodmadjinga, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
C'est un calvaire pour les habitants de plusieurs communes d'Abidjan où les pénuries d'eau potable sont fréquentes depuis quelque temps. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, s'est rendu à Mikao, un quartier particulièrement touché par le problème, dans la commune de Yopougon.
La route qui mène au quartier Mikao est difficilement praticable. Le bitume prend fin avec la zone industrielle. C'est une route boueuse qui nous conduit dans ce quartier où vivent plus de 10 000 personnes. Il y a quelques jours, les femmes de cette cité sont descendues dans les rues pour crier leur ras-le-bol face à la pénurie d'eau qui affecte leur quotidien. Rokia Soro est commerçante. Elle résume ici la détresse des habitants de Mikao.
Vraiment, c'est un moment vraiment. Ces femmes ont marché. On a pris les bidons, des seaux, rien que pour avoir de l'eau à boire. Il n'y a pas d'eau, il y a les nourrices, les femmes. Il n'y a pas l'eau même du tout. Avec le soleil, il fait chaud, on a besoin d'eau. Les femmes, elles chargent l'eau, ça tonnerre. Nous sommes musclés, on ne dort pas la nuit comme la journée, tout. Parce que la nuit même, tu ne vas même pas te toucher, il n'y a pas l'eau.
Jacques Siloué est étudiant et ne dit pas autre chose.
Un bidon pour 3 personnes. Chacun se lave un peu. Et tu te laves le matin, tu attends le lendemain matin pour te laver. Soit tu te laves le soir, tu ne laves pas le matin. Tu es en veille, tu peux rester là toute la nuit en attendant l'eau, zéro.
Assise non loin de Jacques, Ruth Conan acquiesce de la tête avant d'ajouter.
Après, on n'en dort pas. Juste à 3 h du matin, tu te couches. Le matin, tu as te lever encore pour aller dans tes activités. une heure encore, tu vas attendre pour puiser l'eau. Mais...
Pour la femme, ça doit être encore plus dur, hein, par rapport aux hommes.
C'est dur, mais les bidons d'eau, on transporte sur nos têtes.
Ces pénuries d'eau qui rendent la vie difficile à Yopougon Mikao ne datent pas d'aujourd'hui, selon Georges Okwadio, l'un des responsables du quartier.
Sinon, depuis 2008, il n'avait pas de l'eau ici. On est passé par tous les moyens. Jamais de l'eau ici.
Sans eau, comment vous viviez?
On payait de l'eau, comment dirais-je, avec les revendeurs d'eau, un bidon. On achetait des bidons à 50 francs. Donc, c'est ça, on a passé tout le temps à payer.
Face à ce manque d'eau dans les robinets, les habitants de Mikao disent s'en remettre au ciel. Rokia Soro.
C'est Dieu, on peut dire que c'est Dieu, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est Dieu qui donne de l'eau à l'homme. Quand il pleut, quand vraiment, ça nous arrange. Mais il ne pleut pas. Vous voyez un peu la situation.
Pour atténuer le calvaire des habitants, des camions-citernes ont été immobilisés dans le quartier pendant plusieurs jours en vue de fournir de l'eau potable. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. L'eau coule à nouveau dans les robinets et les habitants de Yopougon Mikao espèrent que cela va durer le plus longtemps possible. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, seulement 5% de la population bénéficie d'une assurance maladie obligatoire mise en place il y a 5 ans. Supervisée par l'Institut national d'assurance maladie, cette forme de protection sociale pourrait aider à lutter contre la pauvreté si elle est généralisée à l'ensemble de la population. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Depuis mars 2012, les fonctionnaires et agents publics de l'État togolais bénéficient d'une assurance maladie obligatoire. En 5 ans de prestations, l'Institut national d'assurance maladie INAM revendique plus de 300 000 bénéficiaires, des assurés qui apprécient diversement les services offerts par l'INAM.
INAM, c'est une belle initiative, mais malheureusement, depuis un moment, les services que INAM nous offre, ce n'est pas ça. Par exemple, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes malade, vous souffrez, on te dit d'attendre des fiches à remplir. Et dans les pharmacies, lorsque tu arrives, surtout que tu n'as pas la liquidité, on te fait attendre et on prend soin d'abord de ceux qui veulent acheter avec de l'argent en espèces.
Je suis satisfait des prestations de l'INAM. J'espère que ça va s'étendre à toutes les couches sociales.
Ça vient soulager quand même la plupart des fonctionnaires. Seulement, entre-temps, on a supprimé certains produits. Il faut revoir le pourcentage des prélèvements. Ça coûte beaucoup au niveau du salaire.
Dès le début, on était fiers, mais les changements qu'ils ont eu à faire ne nous arrangent pas du tout. Puisqu'ils ont baissé leur taux de prise en charge, certains produits, ils disent qu'ils ne prennent pas en charge et maintenant, ils nous proposent des génériques.
Sur la question des produits pharmaceutiques génériques, voici les explications de la directrice de l'INAM, Myriam Dossou.
L'INAM ne contraint pas à l'utilisation des produits génériques. Il y a cette politique des génériques pour tous les programmes sociaux et les régimes d'assurance maladie. Parce que les produits génériques coûtent moins cher, parce que le générique et le produit de marque, c'est les mêmes principes actifs, c'est les mêmes compositions. Et on ne va pas payer un prix qui est plus important, alors qu'on a juste besoin de se soigner. Et je pense que lorsqu'on est en groupe et qu'on a des moyens limités, comme dans nos pays, on gagnerait à consommer le générique.
Un pays comme le Togo gagnerait également en optant pour l'assurance maladie universelle, estime Hugues Thibozo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'assurance maladie du Bénin.
Quelqu'un qui n'a pas une couverture contre le risque maladie devient un cas social. Lorsqu'il tombe malade et qu'il doit payer les soins de sa poche, il peut s'appauvrir. Il peut tomber dans la précarité. Mais lorsqu'il est couvert par l'assurance maladie, d'abord il n'attend plus que la maladie s'aggrave avant d'aller aux soins. Dès qu'il a un petit bobo, il peut aller aux soins, se faire soigner rapidement. Et cela contribue donc à maintenir le capital humain, qui est le plus précieux des facteurs de production. Plus l'assurance maladie sera élargie à l'ensemble de la population, plus nous aurons le facteur de production à préserver. Et cela a forcément un impact sur la croissance, donc un impact sur la richesse. Donc le Togo gagnerait énormément.
Pour aller vers l'assurance maladie universelle, les mutuelles de santé ont aussi un rôle à jouer, nous dit Ghislaine Saïzo-Noubroum, présidente du cadre de concertation de la mutualité au Togo.
Déjà, les mutuelles jouent un rôle dans l'achat de l'offre de soins parce qu'ils sont aujourd'hui des intermédiaires entre leurs bénéficiaires et les structures, les prestataires de soins. Ils ont donc cette expérience et cette expertise-là et dans la couverture universelle maladie, elles peuvent continuer à assumer ce rôle-là Nous avons la collecte des fonds, donc la mobilisation des cotisations, surtout auprès du monde informel, des indépendants et du monde agricole. Et lorsque les mutuelles collectent ces cotisations, elles les mettent ensemble et vont pouvoir les reverser auprès d'institutions qui vont s'occuper de l'assurance maladie universelle pour tout le pays.
L'assurance maladie obligatoire pour les agents publics est une phase pilote du projet d'assurance maladie universelle au Togo, indique-t-on. La prochaine étape sera le secteur privé formel avant de s'attaquer à la grande masse de l'informel. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kasaï? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, William Lacy Swink, est arrivé aujourd'hui à Tripoli. La Libye est devenue le point de passage obligé des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Depuis le début de l'année, plus de 19 000 personnes ont été secourues en Méditerranée. Solange Niamouliza a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Je pense qu'il est quand même important de rappeler déjà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 19 000 migrants qui ont été secourus en mer et qui, pour la plupart, étaient partis de la Libye. C'est 30% de plus que l'année dernière. Et c'est pas nécessairement dû au fait qu'il y aurait un appel d'air, comme ça a été évoqué par beaucoup, mais c'est davantage dû aux conditions de vie qui se sont détériorées en Libye. Et c'est la raison pour laquelle notre directeur général s'est rendu en Libye aujourd'hui et qu'il est en train de discuter avec les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Parce que si l'on considère que les conditions de vie en Libye constituent un facteur qui augmente les flux de migration, alors la Libye fait partie de la solution. Et c'est pour ça qu'il est important, il est fondamental de pouvoir trouver une solution avec les autorités là-bas.
Vous avez les chiffres de migrants qui ont traversé depuis les débuts de cette année ?
Oui, depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment, qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Alors qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants ?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, ce n'est pas une crise de chiffres encore une fois. On fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes depuis le début de l'année sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. C'est avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives, comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présentes là-bas, mais ne seraient pas emprisonnées.
Florence et Kim, porte-parole de l'OIM à Genève, joint par Solange Niamouliza.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. Curtis Bynum était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.